Bonjour, c'est la saison numéro 2 du Fil du Fer. Vous êtes sur Radio FM Plus, 91 FM à Montpellier. Ce numéro et le suivant ont pour invité le même monsieur. Beaucoup de compositeurs contemporains ont construit des murs de son grâce à leurs astuces intellectuelles. Mais en réalité, qui habite ce genre d'espace? C'est de Toru Katemitsu. Raphaël Lucas, vous avez 35 ans et vous êtes né à 7. Vous passâtes un baccalauréat littéraire, le L. Vous êtes au Conservatoire Rayonnement Régional de Montpellier, ex-CNR. Vos études, les percussions, l'harmonie, le contrepoint au Conservatoire en 2009. Vous quittez la France et vous partez à New York pour un Bachelor of Music à la State University of New York, SUNY Purchase pour les intimes. Vous continuez sur un Master 1 à la Manhattan School of Music. Vous prolongez sur un Master 2 et vous revenez à Sonia Purchase. Vous écrivez un opéra, un acte à New York, Confession. En 2012, vous rentrez en France. C'est l'été, vous êtes à 7 pour un an. Vous partez pour 5 années ensuite à vivre et travailler à Paris. 7 ans après votre comeback des États-Unis, vous décidez d'habiter le Larzac. Vous êtes percussionniste freelance. Vous jouez avec les principaux orchestres de la région. Vous êtes photographe et compositeur. Vous êtes actuellement en résidence de création artistique à l'abbaye de Sylvanès. Vous avez sur votre table de travail un oratorio qui sera interprété en juillet 2020, donc 2020, par le Chœur Symphonique de Montpellier et le Chœur de la Philharmonie de Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, vous témoignez de votre parcours comme compositeur. Dans le prochain numéro du Fil du Fer, vous témoignerez de votre parcours comme photographe. Pour écouter quelques-unes de vos compositions, c'est sur soundcloud.com/Raphaël Tambor, Raphaël comme le prénom et Tambor, T-A-M-B-O-R. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Partant de là, vous êtes né à 7. Quels sont pour vos oreilles les sons qui font et singularisent peut-être cette ville portuaire?
Alors, simplement là, quelques éléments. Les mouettes, le son du vent qui traverse la ville, dans les bâtiments, dans les arbres. Le son du hautbois languedocien pendant les joutes. Voilà, pour en dire quelques-uns. Il y en aurait d'autres, mais principalement ceci.
Vous grandissez avec des parents bons musiciens amateurs. Il y a beaucoup de disques à écouter chez vous. Il y a un piano. Pourriez-vous développer, s'il vous plaît? Comment était l'ambiance musicale dans la famille? Quel est le monde musical de votre enfance?
Alors, c'était un monde très sensoriel. Déjà, mes parents écoutaient tout le temps de la musique, particulièrement mon père, autant que je me souvienne. Vraiment un grand écouteur de musique. Il se serait, je pense, mis pendant des heures dans la pièce principale de la maison avec ses vinyles et juste à simplement écouter la musique. Donc évidemment, je me mettais avec lui et j'écoutais de la musique également. Autant que je me souvienne, il y avait beaucoup de Frank Zappa, de la musique assez edgy pour l'époque, hein, pour la première moitié des années 80. Quelques instruments, alors une batterie, un piano, et évidemment, tout ça... Quand on est enfant, c'est des choses qu'on adore, sur lesquelles on adore grimper, puis on adore faire des sons, jouer. Ça a commencé comme ça, on va dire. Voilà.
Vous avez donc 5 ou 6 ans, vous écoutez beaucoup de musique. Et voilà ce qui devait arriver. Arriva, vous désirez devenir compositeur. Que comprenez, que ressentez l'enfant que vous fûtes de la musique qu'il écoutait ou improvisait sur le piano et la batterie?
En tout cas, en écoutant de la musique, c'est vrai que je me projetais plus enfant sur... la personne qu'il avait éventuellement créée que sur celui qui l'a joué. Ça me semblait à la fois plus mystérieux et plus attirant, bien sûr. Alors évidemment, je ne me disais pas que j'allais être compositeur à ce moment-là, mais effectivement, assez intuitivement, je me sentais chanter un certain plaisir à m'asseoir au piano et à la batterie et à m'inventer tout un tas d'atmosphères, même pas des histoires, en fait, vraiment des atmosphères. En jouant des notes ou en tapant sur les tomes, les caisses, les cymbales, tout ça. Il y avait quelque chose de très, très atmosphérique.
Il y a un piano chez vos parents, il y a une batterie. Vous apprenez pourtant la batterie au conservatoire de 7. Donc le choix entre piano et la batterie, est-ce que c'était volontaire d'aller faire de la batterie?
Non, c'était plutôt dû au hasard. Alors c'était une classe de percussions, en fait. On faisait de la batterie, mais on faisait aussi les autres percussions. C'est tout simplement parce que, alors, à l'époque, je pense que ma mère voulait m'inscrire en piano, et quand elle s'est présentée au secrétariat du conservatoire pour m'inscrire en piano, il n'y avait plus de place. On lui a dit, bah, il y a de la place en percussion. Donc, comme je jouais un peu de batterie à la maison aussi, elle m'a mis en classe de percussion.
Vous m'avez dit que le désir de composition vous est venu au moment où vous est venu l'envie d'écrire de la musique qui vous fait vibrer. Une musique qui vous fait vibrer, c'est-à-dire ?
Alors, c'est-à-dire, je pense qu'arrivée à l'adolescence, en découvrant la musique et puis en la vivant d'une manière très émotionnelle et, comment dire, aussi très intense du coup, j'ai bon, éprouvé le désir un peu de, je pense au départ, de mimer, quoi, de vivre aussi cette, cette expérience de créative, quoi, de créer quelque chose qui serait aussi beau que ça, que ce que j'entendais, voilà, aussi fort.
Nous allons avoir deux pauses musicales, et ces deux pauses musicales, ce sont vos œuvres. Donc la première, qu'est-ce que nous allons écouter maintenant ?
Alors on va écouter un extrait d'un opéra qui s'appelle Confession, qui est en fait un travail d'étudiant, qui a été ma pièce de fin de bachelor, donc à SUNY Purchase aux États-Unis. Alors c'est une pièce qui est typiquement dans cet esprit de reproduire. C'est un travail d'un peu de reconstruction d'un opéra style début 20e siècle, sur un livret avec un sujet tout à fait style début 20e siècle, qui m'a été d'ailleurs imposé un peu par le staff de l'université. Donc bon, évidemment, c'est pas forcément quelque chose de très, très personnel au départ. Mais j'avais travaillé justement beaucoup sur comment réinterpréter mes souvenirs musicaux et l'écriture d'autres compositeurs. J'avais essayé de faire fusionner un peu tout ça. Puis bien entendu, un travail quand même aussi sur l'écriture vocale, qui était plus intéressant d'ailleurs. La partie la plus intéressante de cette composition a priori. Donc voilà, là c'est une pièce, un opéra, un vrai opéra, orchestre, chanteur lyrique, tout ça.
Alors écoutons un vrai opéra. Vous êtes toujours sur Radio FM+, 91 FM Montpellier. Vous écoutez la conversation avec Raphaël Lucas, musicien et compositeur, qui nous parle. Alors, est-ce que l'on pourra en savoir un petit peu plus sur cet opéra Confession que vous avez écrit ?
Oui, alors effectivement, j'ai choisi de faire écouter un extrait qui est avec une orchestration assez flamboyante, beaucoup de couleurs, spécialement pour illustrer un peu l'idée de départ de ce projet. En fait, cet opéra, c'est un préquel, donc reprend l'histoire d'un très joli opéra, un très bel opéra de Puccini sur Angelica, qui est un opéra en un acte, qui parle d'une une nonne, en fait, qui un jour reçoit la visite dans son couvent d'une tante, pour lui faire signer quelques papiers, on pense d'héritage, des choses administratives, et qui lui annonce au passage que le fils qu'elle avait eu quelques années auparavant est décédé. Et à ce moment-là, évidemment, elle se retrouve seule, sur Angelica, désespérée, triste pour son fils, et elle tente de se suicider, elle se suicide d'ailleurs. Ce qui donne lieu, évidemment, chez Puccini, à un aria des plus beaux, Senza Mamma. Bref, et là, l'équipe de l'université avait essayé d'inventer un peu l'histoire de cette héroïne avant qu'elle entre au couvent, ce qui se serait arrivé. Donc le sujet de l'opéra, c'est ça. Et du coup, musicalement, effectivement, pourquoi composer une musique comme ça en 2009? C'était précisément pour accompagner l'opéra de Puccini. Et j'ai préféré, d'ailleurs, de toute façon, c'était la demande, mais ça m'intéressait aussi de le faire, ne serait-ce que pour réagir à la musique de ce temps-là, hein, du début du XXe, italienne, française, russe, américaine, que j'aime beaucoup, pour un peu me la réapproprier, travailler en fait dans cet esprit-là, faire comme si c'était un opéra de ce temps. Donc évidemment, c'est pas apprendre au premier degré, c'est plus un projet post-moderne, un peu de reconstruction, de réinterprétation d'un temps donné. C'est la raison pour laquelle j'ai composé comme ça.
Et alors, pourquoi êtes-vous parti à New York étudier la musique? Qui cherchiez-vous et qui avez-vous finalement trouvé? Qu'est-ce que vous y avez finalement trouvé?
Alors, l'intention première, c'était de faire du John Williams. Vraiment, d'ailleurs, je pense que quelque part avec cet opéra, j'ai adopté un peu sa démarche, hein, d'emprunt et de reconstruction. Mais alors, évidemment, j'ai pas fait de musique de film. Les choses sont passées complètement différemment. Et puis, effectivement, j'ai découvert, bien entendu, d'autres choses. Partant de là, surtout après l'opéra, ça m'a amené une forme, peut-être d'impasse, en tout cas, d'un point de vue personnel. Moi, j'avais le sentiment que, de toute façon, je pouvais pas continuer à composer comme ça. Puis ça m'intéressait pas non plus, je voulais chercher quelque chose en moi, chercher quelque chose à travers la musique, l'écriture musicale. Alors après, ce que j'ai découvert essentiellement, qui est fondamental pour moi aujourd'hui, c'est une pensée de la musique qui serait en fait pas forcément liée à penser la musique comme un objet théorique pur, c'est-à-dire juste avec des outils comme les notes, les rythmes, l'organisation des sons et justement de ces notes-là, ou plutôt parce que ça a remis en question, et aussi d'ailleurs, il y avait tout cet aspect de travail de la mémoire, donc la citation permanente, cette approche de la composition qui serait que basée sur une mémoire donnée. Là, ça m'a... En découvrant des compositeurs, notamment en fait, par l'intermédiaire d'un prof que j'ai eu à Manhattan School of Music, un pédagogue absolument génial, dont le travail mériterait d'être largement reconnu en France, qui s'appelle Nils Wiegeland. Qui était un élève de Morton Feldman. Évidemment, cette rencontre-là, elle m'a apporté des éléments de réponse, ou au moins des pistes à suivre, pour déconstruire tout ce que j'avais appris, en fait, tout ce que j'avais construit dans la composition, dans ma pratique musicale. C'est-à-dire quelque chose de très basé donc, sur la théorie et une pratique donnée. Et effectivement, maintenant, ça m'amène à, finalement, après ne pas avoir composé pendant des années en rentrant des États-Unis, ça m'amène à repartir sur de nouvelles bases dans la composition.
Pourriez-vous, Raphaël, raconter ce que c'est que composer? Vous m'avez dit que la composition est presque dangereuse. Elle pousse à s'écouter au plus profond. Vous avez demandé à être formé pour, je vous cite, quitter le caractère claustrophobe de l'écoute de la musique en soi. Alors, qu'est-ce que c'est que composer pour vous?
Et composer, c'est déjà... un travail d'écoute, enfin, en tout cas pour ce qui me concerne, puisque je travaille à la table, au crayon de papier, à la gomme encore. donc il y a un travail sur des idées purement musicales, hein, des idées de son, des idées d'organisation de ce son-là, et puis un vrai travail d'écoute intérieure, c'est-à-dire d'aller chercher finalement... peut-être, je sais pas comment je pourrais le décrire, mais dans ma pensée, ce que j'entends, du moins en partie, est d'essayer de le transcrire. Et ce travail-là, est ce que j'entends, et puis aussi comment je conçois une forme. Et ce travail-là, c'est un travail d'introspection extrêmement intense. En fait, pendant ce temps, on est vraiment... en tout cas, je me sens totalement dans mon univers psychique, dans un monde qui, pour le coup, est plus tout à fait le réel, qui est un monde qui est typiquement le mien, en fait. Et c'est ce voyage-là qui peut être très difficile à vivre, qui, je dis peut-être pas dangereux, mais après dangereux si on le questionne pas, justement, mais si on le remet pas en question, mais qui peut être difficile à vivre, qui peut aussi procurer pas mal de plaisir. Donc, dans ce sens, oui, composer, c'est assez dangereux parce qu'il faut revenir de la composition à chaque fois. Voilà.
Vous liez le jeu des percussions avec un rapport sensuel à la composition, c'est-à-dire.
Bah, c'est-à-dire que je pense que ce n'est pas qu'un objet de pensée, une composition, c'est aussi très concrètement des choses à faire, c'est-à-dire des finalement une partition, à y réfléchir d'une certaine façon, c'est juste un jeu d'instructions, de choses qu'on dit, voilà, faites ci, faites ça, à tel moment, comme ci, comme ça, bref, mais bien organisé, on va dire. Et donc, il y a, pour moi, c'est important ce rapport, en fait, à la fois sensoriel de celui qui va jouer la musique et celui qui va l'écouter, donc la recevoir aussi. Il y a un côté très, pour le coup, très réel, très concret.
Sur l'invitation de Michel Volkovitsky, j'espère que c'est bien prononcé, directeur général du Centre culturel de rencontres de l'abbaye de Sylvanès, vous êtes depuis quelques mois en résidence à l'abbaye de Sylvanès, en Aveyron. Qu'est-ce que cela signifie être en résidence pour un jeune compositeur et qu'est-ce que vous y faites?
Alors, ce que j'y fais, principalement, j'y travaille, ça, littéralement, je vais là-bas et je me mets au travail. On élabore avec Michel Volkovitsky des projets, c'est-à-dire en fonction des besoins de cette institution et de ce que je peux faire. Donc il y a un vrai travail d'échange. J'y fais beaucoup de rencontres aussi avec d'autres artistes, avec une équipe, avec un lieu aussi. C'est absolument fascinant. Est-ce que ça signifie? Alors, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie pour le travail de composition en soi de se poser certaines questions qui sont liées à ce lieu précis et à cette institution précise. Et aussi en tant que compositeur, ça signifie que pendant un moment donné, ce qui peut être très difficile, je pense, pour un nombre de compositeurs contemporains de nos jours, c'est d'avoir une place en fait, c'est-à-dire d'être à la fois reconnu pour ce qu'on fait, d'avoir un statut à un moment donné, d'être payé pour écrire de la musique, d'avoir une prise en charge dans la production des œuvres, c'est-à-dire qu'elles soient bien travaillées, qu'elles soient bien montées. Donc il y a tout un côté comme ça pratique et je veux dire sociétal du compositeur qui est mis en jeu et qui est très important. Parce que concrètement, les choses se font en fait.
Nous arrivons à la deuxième pause musicale et c'est à nouveau une de vos œuvres. Quel est le lien entre ce que nous allons écouter et puis l'abbaye de Sylvanès, s'il vous plaît?
Alors, ce qu'on va entendre, c'est une pièce pour 8 chanteurs a cappella, commandée par l'abbaye de Sylvanès au printemps dernier, et qui a été créée le 17 août. À l'abbatiale de Sylvanès, par le jeune chœur de l'abbaye de Sylvanès aussi, un chœur qui officie pendant le festival. C'est une pièce qui est un peu pour moi la reprise, on va dire. Je remets le pied à l'étrier avec cette pièce-là. Ça faisait 6 ans que j'avais pas écrit une seule note. Donc évidemment, je suis arrivé sur la table de travail avec un sentiment de fraîcheur. Finalement, avec la constatation que j'avais pas non plus perdu mon métier tant que ça. Tous les acquis sont bien restés dans la technique d'écriture, dans l'écoute intérieure aussi. Mais là, il y a eu toute une sorte de, il y a eu un long moment de silence. Donc ça a été un grand bonheur. Et puis en plus, j'ai pu travailler sur un superbe texte de Mathias Hénard, l'ouverture de son roman Parle-leur de bataille de rois et d'éléphants. Qu'il m'a autorisé à mettre en musique et j'en étais très très heureux.
Alors écoutons de l'a cappella.
Thank you.
Vous êtes bien sur Radio FM+, 91 FM, c'est le fil du fer avec Raphaël Lucas, compositeur. Avec ce que nous venons d'entendre, cette pièce pour chœur a cappella, quelles étaient vos intentions ?
Alors déjà, juste m'excuser de la qualité du son, c'est une prise de son un peu brute de décoffrage depuis le public, mais bon. Alors mes intentions, déjà je ne les connaissais pas forcément à l'avance. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant le temps que j'ai passé à ne pas composer, j'ai quand même évidemment réfléchi énormément à ce que ça pouvait signifier pour moi de ne pas composer et de recomposer éventuellement. En fait, à l'abbaye de Sylvanès, et par rapport à sa situation, c'est quand même une abbaye cistercienne perdue au milieu d'une infinité de vallons, en plein cœur du sud de l'Aveyron. Et puis l'expérience que je commençais à vivre en habitant sur le Larzac, donc en plein milieu d'une sorte de désert aussi, ça a soulevé des questions sur surtout la perception du temps, en fait. Puisque d'un coup, il m'a semblé que il y avait beaucoup de choses qui retombaient en termes peut-être d'énergie. Quand on vit en ville, effectivement, donc on est très sollicité, on a beaucoup de diversion, on a peu de temps pour penser. Et là, d'un coup, je me suis retrouvé avec beaucoup de temps et beaucoup d'espace pour le faire. Et ça m'a amené en fait à envisager la composition d'une pièce plutôt comme un moment d'une perception spéciale du temps et du son que comme un monument à créer de complexité ou de raffinement, de recherche. Peut-être théorique, je sais pas. J'ai voulu un peu mettre au second plan les moyens, les idées, même si évidemment elles sont fondamentales, elles sont indispensables, j'ai envie de dire, et me poser plus la question de l'expérience d'une pièce musicale. Donc voilà, ça m'a amené à travailler de cette manière.
On a parlé du silence, de vos 6 années de silence. Est-ce que le silence existe pour un compositeur à l'intérieur de soi ? Et qu'est-ce que ce silence vous a fait découvrir de votre propre musique intérieure, disons cela comme ça ?
Je pense que faire silence, pour le coup, pendant ces quelques années, ça a été un moyen de passif de déconstruire certaines choses, en fait, et de prendre de la distance avec. Finalement, peut-être que le silence, c'est plus là pour le coup un moment d'attente, ouais, un moment d'attente et où les choses se font d'elles-mêmes en fait. Mais sinon, non, je pense pas que le silence existe même en fait.
Quel est votre regard en tant que jeune compositeur sur la programmation en France des créations de musique contemporaine composées par la génération émergente ? Où est-ce que ça en est ? Est-ce qu'il y a des coups de pouce ? Est-ce que c'est mis de côté ? Comment est-ce que vous voyez cela ?
Il y en a, manifestement, parce que j'en suis la preuve, puisque je fais cette résidence. J'ai la chance de la faire. Après, d'une manière générale, je trouve que dans l'idéal, pour ce qui me concerne, les programmateurs pourraient être beaucoup plus audacieux et croire beaucoup plus en la musique contemporaine. Effectivement, je ne comprends pas pourquoi à tous les concerts, il n'y a pas une création. Ça devrait être automatique, en fait, je pense, dans la mesure où c'est de la musique vivante. Donc il faut la faire vivre à chaque fois. Et il y a une demande de la part des compositeurs d'être joués, et je suis sûr qu'il y a une demande très forte du public de découvrir de la nouvelle musique. Ça veut dire aussi accepter de prendre des risques, de faire jouer de la musique qui ne restera pas dans les annales, ou qui sera peut-être difficile à comprendre pour un public à un moment donné. Mais il faut le faire, il faut le faire.
Est-ce que vous pourriez décrire ce qu'est la vie d'un percussionniste freelance ?
c'est euh, C'est bien utile parce que quand même il faut gagner sa vie. Donc pour moi d'être resté interprète, ça me permet encore aujourd'hui de subvenir à mes besoins, même si c'est devenu quelque chose qui n'est pas forcément au premier plan dans ma pratique artistique.
Raphaël, qu'est-ce que votre trajectoire dans le monde de la musique a changé dans votre relation à vous-même et aux autres?
On va dire que, en tout cas, ma relation à la musique a été, comment dire ça, un peu à l'image de mes propres difficultés existentielles, quoi, quelque part. Ce qui est, bon, ce qui est un peu normal, puisque je vivais vraiment de musique pendant de nombreuses années. Effectivement, le fait aussi de m'en éloigner, ça m'a permis de prendre la distance avec ce lien très fusionnel que j'avais avec la musique et de pouvoir me réapproprier ma pratique musicale d'une manière plus personnelle, plus adulte peut-être.
Il est temps de redire la citation que vous avez proposée pour éclairer notre conversation. Qu'est-ce que ces mots révèlent de vous ou révèlent de votre pratique musicale?
Alors la citation c'était en anglais, donc de Toru Takemitsu, un compositeur japonais qui est décédé en 1996. Many contemporary composers have been building walls of sounds following their own clever devices. But then, who lives inside those rooms? Alors pourquoi cette situation? Takemitsu a dit beaucoup de choses de toute façon, fascinantes. Pour cette citation, elle résonne avec les préoccupations actuelles que j'ai à travers la composition.
Chères oreilles et chers cerveaux, à l'écoute, tu files dans le fer des autres. Je vous dis à bientôt pour l'émission suivante.